When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, c'est Sophie, la créatrice d'Au revoir Podcast. Avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier Coralie, Xavier et Soline qui ont apporté leur soutien à Au revoir Podcast ces derniers jours. Au revoir Podcast, depuis septembre 2020, c'est du contenu gratuit et en libre accès sur le deuil périnatal à travers les épisodes du podcast. Il y en a plus d'une soixantaine, peut-être même 70, et à travers du contenu et des posts sur Instagram. Si vous aussi vous souhaitez soutenir mon travail et permettre à l'aventure d'Au revoir Podcast de se poursuivre, rendez-vous sur la plateforme de financement participatif Tipeee, tipeee.com/au revoir podcast. Je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Et puis pour donner au deuil périnatal plus de visibilité, vous pouvez partager les épisodes autour de vous, sur vos réseaux sociaux ou mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts et Spotify. Je vous remercie pour votre soutien et maintenant, je vous laisse écouter l'épisode. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou de décès d'un enfant, quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute. La semaine dernière, vous avez pu découvrir la première partie du témoignage de Claire. Claire a aujourd'hui 29 ans et elle était adolescente quand elle a été enceinte pour la première fois. Une grossesse qu'elle a décidé, contre toute attente, de poursuivre. Mais à 25 semaines d'aménorrhée, sa vie bascule. Elle accouche prématurément de son petit Valentin, qui vivra une heure et demie environ. Dans ce premier épisode, Claire est revenue sur ce deuil d'autant plus difficile qu'il n'a pas été accompagné par les soignants qui l'ont prise en charge. Des soignants qui ont minimisé cette épreuve.
Je pense que là, quelque chose s'est vraiment éteint en moi, en fait. J'ai pas compris ce qui était en train de se passer. Valentin est né. En fait, tout se mélangeait entre la brutalité des mots. Hein, on m'a dit, puis ce pourquoi en fait, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ça m'arrive. Et on m'a répondu, ça arrive une fois sur mille et c'est tombé sur vous. Donc j'étais partagée entre ce choc là et mon petit bébé que j'avais dans les bras. Donc alors je sais pas si c'est à cause de mon âge, hein, parce que sur la suite de mon séjour, il y a clairement des choses qui étaient liées à mon âge. On a clairement voulu cacher le plus vite possible ce qui s'était arrivé. Mais sur le moment, en fait, je comprends pas qu'on puisse être aussi froid, enfin, et balancer des mots si forts.
Claire avait 16 ans donc au moment du drame et elle s'est sentie glisser petit à petit. Grâce au soutien de ses parents, grâce également à des professionnels de santé qui l'ont accompagnée lors de ses hospitalisations dans un établissement psychiatrique, elle a pu commencer à remonter la pente, à reprendre le lycée, à faire de nouvelles rencontres, à vivre avec cette double casquette d'adolescente et de maman endeuillée.
C'était mon fils, c'était tout pour moi, mais là où déjà, quand on vit un deuil périnatal, déjà, c'est pas forcément évident à assumer. forcément, moi, à 17 ans, devant des personnes que je connais pas, c'est un peu compliqué de dire, bah oui, moi j'ai un enfant, il est décédé. Enfin, bien sûr, je le disais parfois, mais je me sentais tellement en décalage, en fait. Je me suis toujours, hein, plus ou moins sentie un peu en décalage, pas forcément préoccupée par des choses de mon âge. Hein. J'étais pas en phase, en fait, avec ce qu'on imaginait d'une adolescente de 16 ou 17 ans. C'était pas évident. Je me reniais, en fait, un petit peu. Mais j'avais pas le choix pour m'intégrer un minimum. Et à la fois, quand je sentais qu'il y avait la place pour le dire, je le disais parce qu'en fait, ça faisait partie de moi et de mon histoire.
Et puis, quelques mois avant le bac, c'est la rencontre avec Alexandre. Alexandre, son compagnon depuis plus de 10 ans, et papa de sa petite Iris, aujourd'hui âgée de 5 ans. Alexandre, à qui elle n'a rien voulu cacher de son histoire.
Et en fait, je me suis dit, bah, faut que je dise tout, puisqu'en fait, moi aujourd'hui, c'est un peu tout le package. C'est on me prend avec ça ou on me prend pas, quoi. Donc, et en fait, ça l'a pas fait fuir. Donc, il a accueilli tout ça et je pense qu'il était peut-être même un peu impressionné, en fait, de se rendre compte de tout ce qui pouvait bien se cacher derrière ce que je laissais apparaître, en fait.
Alors reprenons l'histoire là où nous l'avions arrêtée et retrouvons aujourd'hui Claire pour la suite de son témoignage. Au revoir podcast, épisode 40, partie 2. Claire, la vie après Valentin. Lorsque nous avons quitté Claire, elle venait de rencontrer Alexandre. Tous deux sont alors en terminale, passent le bac et le décrochent ensemble. Ensemble, ils franchissent de nouvelles étapes. Premières vacances, première rencontre avec les parents. Mais quelques années après le décès de Valentin, Claire commence à se sentir fatiguée, même épuisée. Elle somnole beaucoup, prend du poids, alors qu'elle a progressivement remonté la pente et qu'elle se sent mieux dans cette vie qu'elle a reconstruite et qu'elle partage avec Alexandre, elle ne comprend pas ce qui lui arrive.
J'ai commencé à avoir des symptômes étranges, une très très grande fatigue. En fait, mon corps s'est comme arrêté. Il y a eu une errance médicale pendant de longs mois, on comprenait pas ce qui m'arrivait. Et puis, finalement, on m'a diagnostiqué une hypersomnie idiopathique. Alors, c'est une maladie cousine, pour faire simple, de la narcolepsie. Du coup, c'est une hypersomnie, c'est-à-dire qu'on a juste envie de dormir tout le temps. On est comme en état de somnolence. Donc, c'est très, très compliqué. Et je pouvais dormir 10, 12 heures par nuit, je n'arrivais plus à me réveiller déjà le matin. Et mon métabolisme, c'était comme arrêté, en fait. Donc, il y a des hypersomnies, pour faire simple, de type secondaire, donc qu'on peut facilement imaginer en répercussion à une dépression ou autre. Et sauf que là, dans mon cas, on n'a jamais réussi sur le moment à faire le lien avec ce qui m'était arrivé pour Valentin. On ne comprenait pas ce décalage de 2 ans, là. Et pourtant, j'allais bien, j'étais dans une période où ça allait mieux. Donc, c'était très, très déstabilisant. Donc, c'est pour ça que c'était une hypersomnie idiopathique, dont on ne connaît pas la cause, littéralement. Et ça a été très compliqué. Ça ne faisait que d'empirer. C'est maladies pour lesquelles on n'a pas beaucoup de... Enfin, on n'a pas de traitement. Ce qu'on prend, ce sont des médicaments stimulants pour essayer de maintenir un état d'éveil correct. Mon état s'est détérioré assez rapidement et là, finalement, heureusement, encore une fois, que j'avais Alexandre, puisqu'il m'a quand même porté hein, pendant toutes ces années. Il n'y a pas d'autre mot... Même au niveau de mes études, tout ça, je commençais à avoir du mal à me concentrer. Je sentais, c'est très frustrant, je sentais qu'intellectuellement, tout me demandait plus d'efforts. Là encore, on m'a dit, voilà, c'est dans ta tête, faut se bouger. Et moi, j'étais un peu prise au piège, en fait, dans ces symptômes que je ne comprenais pas. Et je suis restée dans cette situation 5 ans. Donc, j'ai poursuivi mes études. Avec Alexandre, on a continué notre chemin, mais on arrivait un petit peu aussi dans une impasse. Hein. Au bout d'un moment, forcément, ça avait des retentissements sur ma vie personnelle, sur ce que je pouvais imaginer aussi de ma future vie professionnelle. Enfin, petit à petit, vous imaginez, les portes, tout se referme hein, quand on est dans cet état.
Claire est affaiblie donc. Pendant plusieurs années, 5 en tout, elle vit avec cette hypersomnie, cette maladie neurologique encore peu connue. Pas de cause clairement identifiable, pas d'explication, mais elle est soutenue par Alexandre, soutenue par ses parents, alors la vie, elle continue. Et en parlant de vie, d'ailleurs, Claire découvre qu'elle est enceinte. Une grossesse qui n'était pas prévue, compte tenu des circonstances, mais qu'elle souhaite accueillir, malgré tout.
Les médicaments que je prenais pour mon hypersomnie amoindrissaient l'effet des hormones avec la pilule. Donc en fait, on faisait des trucs un peu expérimentaux, c'est-à-dire que je prenais ma pilule en double, parce qu'à l'époque, je ne voulais pas de stérilet. Après ce que j'avais vécu avec l'implant, j'avais du mal à accepter qu'on puisse me mettre un stérilet. Et en fait, je voulais garder la pilule, et du coup, je prenais ma pilule en double. Mais normalement, ça devait fonctionner. Quand je suis tombée enceinte d'Iris, on a eu peur, clairement. Moi, j'étais encore en études, hein, j'entamais un master. On était séparés un peu géographiquement, puisque lui venait d'entamer sa vie professionnelle sur un autre département. C'était très loin d'être la situation idéale. C'était pas prévu. Et en plus, avec ma maladie, bah, clairement, on a eu peur. Enfin, comment, en étant à ce point fatiguée et en ayant déjà du mal à me gérer moi-même, je vais pouvoir gérer l'arrivée d'un nouveau-né. Donc, et à la fois, je me souviens avec mon médecin qui me suivait depuis toute petite, on a échangé et elle m'a dit, de toute façon, le choix, il est très simple. C'est est-ce que avorter, c'est une option ou pas ? En fait, les solutions, on les trouvera, mais avorter, c'est juste pas possible. Et ça, en fait, ça s'est imposé à moi. Et j'ai aussi, du coup, beaucoup plus culpabilisé parce que je me suis dit, je piège un petit peu forcément mon conjoint parce que lui, il n'avait pas prévu d'avoir un enfant à ce moment-là. Et c'est un peu simple, entre guillemets, de dire, bah, moi, avec mon vécu, je peux pas, j'y arriverai pas. Je m'en remettrai pas si je prends cette décision. Lui, il a eu peur, hein, littéralement. On ne se sentait pas non plus dans la meilleure configuration pour accueillir un bébé tout de suite. Enfin, bien sûr, c'était un sujet pour dans quelques années, mais pas maintenant. Enfin, et je m'en voulais un petit peu, moi, de sentir que pour moi, ce n'était pas une option. Et à la fois, enfin, concrètement, comment je lui laisse le choix c'est délicat. Et lui, forcément, il a eu beaucoup d'inquiétudes aussi. Et en fait, bon, bah, après, voilà. On y est allé et puis après, on était très heureux de l'annoncer. Et très vite, les craintes aussi, de notamment de ma famille, moi de mon côté, se sont estompées. On savait qu'on trouverait des solutions et qu'on s'en sortirait. Puis on est rentré après, du coup, dans une autre partie, la grossesse d'après.
Et c'est la fameuse grossesse d'après. Près de 7 ans après sa première grossesse et le décès de Valentin, Claire se prépare à vivre cette étape en sachant que tout peut s'arrêter. Une grossesse d'autant plus marquée par l'incertitude qu'aucun examen n'avait été réalisé pour comprendre les causes de son premier accouchement, très prématuré. Les équipes médicales, comme je vous l'ai dit, celles qui étaient présentes au moment de la naissance de Valentin, avaient complètement minimisé le vécu de Claire, elles l'avaient malmenée aussi, et puis elles n'avaient pas non plus pris la peine de comprendre ce qu'il s'était passé, afin de pouvoir envisager un accompagnement adéquat pour une future grossesse. Et puis, il y a aussi la peur liée à l'hypersomnie dont souffre Claire. Comment va-t-elle vivre cette grossesse alors qu'elle est constamment épuisée et qu'il vaut mieux arrêter les traitements médicaux ? Mais contre toute attente, les symptômes commencent. à disparaître.
Déjà au premier trimestre de la grossesse, je me suis dit, ça va. Je pensais être plus fatiguée que ça, parce que déjà, avec le premier trimestre de la grossesse, ça peut être compliqué. Mais là, additionné à ma maladie, parce qu'aussi j'avais arrêté mes traitements, hein. J'avais tout arrêté au début de ma grossesse, et je me sentais, bon, pas forcément beaucoup plus fatiguée qu'avant. Et puis à partir du deuxième trimestre, j'ai commencé à faire des insomnies. Et là, je me suis dit, c'est quand même plutôt cocasse. Mais il y avait forcément cette prudence, puisque j'étais sous hormones, forcément, à un taux très important. Et il fallait attendre que la grossesse soit terminée, et voire même qu'un trimestre de plus passe, pour pouvoir espérer se dire que la maladie était partie. De toute façon, ce qui a géré, c'est la grossesse. Et puis, j'ai eu une grossesse quand même particulièrement compliquée. Donc, déjà, là, j'ai été très, très bien entourée. Mon médecin traitant de l'époque m'a dit, de toute façon, je te trouve une gynéco, ce sera elle. Et cette femme, merveilleuse, m'a vraiment, vraiment bien accompagnée. Et elle m'a dit, déjà, comment ça se fait qu'on n'ait jamais enquêté sur ce qui vous est arrivé? C'est pas parce qu'on a 16 ans qu'on a forcément un enfant prématuré, hein, déjà, de base. Donc, comment ça se fait qu'on n'a pas cherché les causes? Et on s'est retrouvé du coup bien embêté de savoir est-ce qu'il y a un risque que ça recommence ou pas. Et on n'a jamais cherché. On a dit, bon, c'est un cas isolé, voilà. On était vraiment dans l'appréhension. J'avais des contrôles très, très réguliers. Arrivé à 3 mois, on a dit, bon, tout a l'air de bien se passer. 4 mois, ça va. Et là, après, mon col a commencé à s'ouvrir, encore une fois. Et là, heureusement que j'avais ce suivi vraiment rapproché, où ma gynécologue a dit, non, mais il y a un problème. Là, il y a un problème. Et elle a posé ce mot, en fait. Il y a une incompétence cervicale. Et il y a eu forcément hein, toute la peur et le suivi que ça a entraîné derrière. Et puis, il était trop tard hein, pour faire un cerclage. Donc, c'est ça aussi qui était compliqué. C'est qu'elle ne voulait pas prendre ce risque avant, sachant que j'avais peut-être rien. Et après, il est trop tard.
L'incompétence cervicale correspond à ce que nous appelons aujourd'hui l'insuffisance cervicale. En fait, le col de l'utérus, c'est la partie la plus basse de l'utérus et son ouverture reste normalement fermée pendant la grossesse. Lorsque le bébé est prêt à naître, ce col s'ouvre pour lui permettre de sortir. L'insuffisance cervicale, elle désigne un col de l'utérus qui s'ouvre plus tôt pendant la grossesse, ce qui présente un risque de prématurité très important. Et c'est justement ce qui s'est passé pour Claire au moment de la grossesse de Valentin. Jamais ces mots n'avaient été posés juste après son accouchement. Petit à petit, Claire, enceinte de son deuxième enfant, de sa petite Iris, commence à mieux comprendre ce qu'elle a traversé à l'occasion de cette première grossesse. Il avait donc fallu attendre tout ce temps pour obtenir les premières réponses à des questions qu'elle avait formulées il y a de ça plusieurs années.
Donc j'ai eu très très peur, hein, forcément. Mais ce mot, en fait, entendre ce mot, ce diagnostic, waouh quoi. 7 ans après, j'avais ma réponse, en fait. Déjà rien que ça, c'est venu apaiser quelque chose en moi. C'était pas ma faute, quoi. On reconnaissait effectivement, et puis on posait même un diagnostic. J'avais eu un problème qui, en plus, n'a pas été pris en charge. Hein. Personne ne s'est intéressé à mon problème, et ça, c'est dommage pour cette grossesse 6. Ça mettait quand même en danger ma grossesse suivante. Mais j'avais une réponse, quoi. Et déjà, ça, c'était un bon début aussi pour la relecture de mon histoire. Hein. Ça m'a apporté un soulagement immense sur le moment. Bon, et après, on est passé dans une autre phase, hein, forcément, puisque j'ai été hospitalisée immédiatement et je devais être à 23 ou 24 semaines d'aménorrhée. Donc, voilà. Après, la suite a été compliquée. Forcément, déjà, il y avait ce premier cap des 25 semaines. Et là, pareil, la clinique où j'ai été suivie, a été formidable. On a très vite parlé d'hospitalisation à domicile, mais là, ils m'ont dit non, les deux prochaines semaines, on vous garde avec nous. Il faut qu'on passe ce cap, quoi. Donc, j'avais aussi énormément de contractions. J'angoissais énormément et je me sentais plus en sécurité d'être dans les murs de la clinique. Mais voilà, et on y est allé après comme ça, semaine par semaine. Et j'avais très peur que ça nous arrive à nouveau, enfin que ça m'arrive à nouveau, et surtout que ça arrive aussi à Alexandre. Donc là, voilà, on y allait étape par étape. J'ai alterné hospitalisation à la clinique, hospitalisation chez moi, réhospitalisation à la clinique. Ça a été très, très compliqué. Il y a eu beaucoup d'étapes et de frayeurs. J'ai quand même fini deux fois en salle de naissance avec la péridurale dans le dos. Hein, et on voyait là un pédiatre toutes les deux semaines. À chaque cap, on disait, voilà, si votre bébé, il arrive maintenant, il y a ça qui se passera. C'est ça, les risques. Et en fait, on a senti, on a compris que j'avais besoin de ça. Alors oui, ça faisait peur. Hein. Clairement, il y a des stades, l'extrême prématurité, ça fait très, très peur. Mais à la fois, bon, on me disait, voilà, on fait ce qu'on peut. Donc, j'ai eu les injections pour les poumons. On faisait ce qu'on pouvait. On ne pouvait pas faire grand-chose, mais déjà, j'étais alitée totalement. Hein. Pendant plus de 3 mois, je me suis levée juste pour aller aux toilettes et me doucher. Donc, on mettait toutes les chances de notre côté et on avançait semaine par semaine. Ça a été extrêmement long.
C'est long, mais Claire est bien suivie. Elle se sent en sécurité, se sent comprise. Autour d'elle, il y a ses parents, il y a son compagnon, et puis des soignants humains et bienveillants. Enfin. Ses hospitalisations se passent dans un établissement différent de celui dans lequel elle a mis au monde Valentin. Cette fois-ci, elle a choisi une clinique de niveau 2. Mais compte tenu du risque très important de prématurité, cette clinique ne pourrait pas prendre en charge son bébé s'il naissait trop tôt. Niveau 2, cela signifie qu'il y a sur place un service de néonatalogie et plus précisément de soins intensifs néonatales. Mais compte tenu du risque d'accouchement très prématuré, elle est finalement redirigée vers un établissement de niveau 3, avec une réanimation néonatale cette fois-ci. Mais cet établissement de niveau 3, c'est justement le CHU où elle a accouché de Valentin. Ce CHU où elle a été malmenée. Un lieu qui réveille des images très douloureuses pour Claire. Un lieu où elle ne voulait jamais remettre les pieds.
Ça a été très dur et en fait la clinique, si j'avais choisi cette clinique de niveau 2, c'était justement pour éviter à tout prix une prise en charge avec les souvenirs que j'avais de l'époque. Moi, rien que les murs de cet hôpital, en fait, me rendaient complètement malade. Après, j'ai pas eu le choix, mais ça a donné des choses très cocasses. Hein. Moi, les équipes de la clinique sont venues m'accompagner jusqu'à l'ambulance en me disant « Allez, on s'accroche, si vous accouchez là-bas, on vous récupère après, on vous rapatrie dès qu'on peut, vous et le bébé. » Parce qu'ils savaient, ils savaient que je voulais absolument pas, que c'était très dur pour moi de retourner là-bas, mais il n'y avait pas le choix en fait. Comme on pensait que ma fille allait arriver, de toute façon, les seuls qui pouvaient la prendre en charge, je ne sais plus à combien de semaines j'étais, mais à 30 ou semaines il me semble, de toute façon, il n'y avait que là-bas que ça pouvait se passer. Donc, arriver là-bas, dans cet hôpital, j'ai osé dire aussi, déjà ils connaissaient mon dossier, j'avais aussi des sages-femmes donc, qui me suivaient pour l'hospitalisation à domicile, qui étaient en lien avec tous les différents hôpitaux et les cliniques. Donc elles-mêmes, elles étaient là-bas, elles les ont prévenues, ils avaient mon dossier. Donc ils ont fait quand même un petit peu plus attention. Il y a eu des choses qui ont effectivement été moins bien prises en charge qu'à la clinique où j'étais. Mais j'ai aussi beaucoup devancé les choses. Hein. Moi, je leur ai dit plusieurs fois, j'en suis malade d'être ici. Après ce que j'ai vécu, j'ai devancé. Pour aussi peut-être qu'on comprenne mieux aussi mes réactions et cette angoisse. Hein, parce qu'il y a eu des moments où j'étais littéralement paniquée par ce qui était en train de m'arriver. Là encore, je me suis un peu protégée en éduquant en fait mes interlocuteurs, en les sensibilisant à mon histoire. Et clairement, je n'étais pas capable de revivre voilà, des propos difficiles, déplacés. Enfin, c'était déjà suffisamment lourd ce que j'étais en train de vivre, donc j'avais pas d'énergie à dépenser à ça. Puis j'avais autour de moi aussi mon conjoint, forcément, lui était un petit peu inquiet aussi. Et puis les soignants entre eux ont communiqué, je sais très bien que la clinique aussi les a prévenus. Voilà, il y a tout un tas de petites personnes derrière qui ont œuvré aussi pour me préserver un petit peu. Après, j'ai été rapatriée du coup à partir de 33 semaines à la clinique où je voulais accoucher. On a atteint donc les 34 semaines, je me souviens, les sages-femmes sont venues déposer des post-it dans ma chambre avec des sourires et tout, parce que je connaissais de toute façon à peu près toute l'équipe. Et ce cap-là des 34 semaines, il était, voilà, il était très important pour nous. Et puis en fait, bah après, j'ai encore tenu jusqu'à 36 semaines et 6 jours. J'ai même été renvoyée chez moi entre-temps. J'ai passé une semaine où j'ai eu le droit de marcher. Donc, j'ai vécu un accouchement qui m'a réparée. J'étais face à tout un tas de soignants, là encore, qui connaissaient tous par cœur mon histoire et qui voulaient vraiment m'aider. Et même si j'ai eu un accouchement assez difficile, hein, puisque ma fille était en siège, voilà, là aussi, ma gynécologue, en fait, avait compris l'importance pour moi aussi d'accoucher par voix basse. Tant que c'était possible, toute l'équipe se réunissait toutes les semaines pour faire le point sur la situation. Et on avait même prévu, en fait, de me déclencher quelques jours après pour que je puisse accoucher en siège et pas attendre trop longtemps que la tête, notamment, grossisse. Et puis, j'avais un col qui était complètement ouvert depuis pratiquement un ou deux mois. Donc, de toute façon, c'était trop bête, entre guillemets, de pas tenter cet accouchement par voie basse. Et voilà, donc ça a été très rapide, forcément, et très, très, très beau. Ça n'a rien à voir, forcément, avec ce que j'ai pu vivre auparavant. Et je les remercie, d'ailleurs, d'avoir tout fait aussi pour que ça se passe comme ça, parce qu'ils savaient que j'avais besoin, en fait, de vivre un accouchement qui se passe bien.
Iris vient donc au monde. Mais les soignants l'emmènent aussitôt pour aspirer les sécrétions qui étaient présentes dans ses voies respiratoires et l'aider à mieux respirer.
Et en fait, sur le coup, du coup, moi, j'ai paniqué. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible. Ils l'emmènent, quoi. Donc, il y a eu quelques secondes de... J'ai cru revivre un drame. Et en fait, après, tout de suite après, les sages-femmes et la gynéco m'ont dit, vous l'entendez ? Elle pleure. Et moi, j'aurais dit, mais non, mais rien ne me dit que c'est elle. J'étais vraiment très inquiète et dans le déni, quoi. Et elle me dit, mais si, et vous êtes la seule à avoir accouché à cette heure-ci. Donc forcément, là, c'était le bonheur absolu, quoi, quand j'ai compris que les pleurs que j'entendais, c'était les siens. Je saurais dire, en fait, ce qui s'est passé. Après, j'étais vraiment dans un autre monde, hein. Une bulle forcément de bonheur immense, quoi.
C'est dans cette bulle de bonheur qu'un nouveau chapitre de la vie de Claire commence. Iris est son second bébé, le premier enfant qu'elle a avec Alexandre. Et puis ce nouveau chapitre s'écrit alors que les symptômes de sa maladie ont disparu. Oui, ils ont disparu. Alors que Claire avait auparavant tout essayé pour comprendre cette pathologie qui lui était tombée dessus subitement, une pathologie sans lien apparent avec le décès de Valentin, eh bien, force est de constater que depuis le début de cette seconde grossesse, elle va mieux. Et si c'était justement cette nouvelle grossesse qui l'avait aidée à guérir d'une maladie qui, normalement, ne se guérit pas ? Quelques mois après son accouchement, elle refait le point avec ses médecins.
3 mois se sont passés plutôt rapidement. J'ai revu ma gynécologue, entre-temps aussi, qui, elle, m'a dit « Mais bien sûr que ce qui vous est arrivé, elle en était persuadée. Elle dit, je suis persuadée que ça vous a guéri. Pour moi, ça ne reviendra pas. » Mais bon, je n'osais pas y croire, quoi. Et puis, j'ai fini par revoir le médecin spécialiste en centre du sommeil. Peut-être 4 mois après, il était un peu sans voix. Hein, il m'a dit, c'est une rémission. Il était un peu bouche bée, quoi. il n'avait pas d'explication à me donner, et comme il n'en a jamais eu à me donner au départ, on pense que les hormones aussi ont joué un grand rôle là-dedans. Après, voilà, bien sûr, il m'a donné des conseils pour la suite, et puis surtout être en alerte, en fait, sur s'écouter et faire attention à soi, pas pousser trop loin le curseur, parce que malgré tout, y a un peu cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête, mais il n'y a pas de raison, d'un autre côté aussi, que ça revienne, en fait. On n'y comprend rien, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu mon petit miracle à moi, quoi. C'est la naissance de ma fille, ça, voilà, c'est venu réparer forcément beaucoup de choses sur mon histoire. Mais plus que ça, ça m'a guéri, en fait, même physiquement. Donc, c'est assez incroyable, tout ça. Il n'y avait aucune logique dans tout ça. Sauf que, voilà, force est de constater que ma grossesse m'a guéri. Donc, après, est-ce que c'est purement hormonal? Est-ce que c'est finalement, il y a un peu de psychique dans tout ça?
On ne le saura pas, en fait. Mais aujourd'hui, Claire, elle va mieux. Depuis toutes ces années, il y a eu la naissance de Valentin, le deuil, la dépression, les hospitalisations, cette maladie aussi qui s'est déclarée comme une bombe, à retardement. Et puis il y a Alexandre, il y a Iris qui a aujourd'hui 5 ans. Elle en a fait du chemin, Claire. Et puis elle a commencé à obtenir des réponses à ses questions. Les années passent et tout ce brouillard de questionnements s'estompe, peu à peu. Savoir qu'elle souffrait d'une incompétence cervicale, par exemple, c'est déjà une première réponse à ce fameux « pourquoi ça m'est arrivé ?». Et puis, il y avait d'autres interrogations qui étaient restées en suspens. Pourquoi est-ce qu'elle avait poursuivi sa première grossesse? Pourquoi est-ce qu'elle avait eu ce désir alors qu'à l'adolescence, elle savait a priori qu'elle aurait recours à une IVG si cela lui arrivait?
J'ai toujours eu du mal à comprendre, en fait, ce qui m'avait aussi poussée à ce choix de garder mon bébé d'une façon si... Ça m'a dépassée, en fait. Il s'est imposé à moi, ce choix. Et dans tout le travail que j'ai pu faire ces dernières années, j'ai quand même mené un travail sur moi très, très, très poussé. Et dernièrement, j'ai aussi travaillé notamment sur mes valeurs et les choses qui sont importantes pour moi. Et j'ai compris que aussi la famille, notamment, ça pouvait être quelque chose d'important pour moi, la famille, la maternité. Et en fait, ça m'a offert déjà une relecture sur ce choix que j'ai pu faire à l'époque, que j'ai pas compris. En fait, il s'est révélé à moi parce qu'en fait, c'était important pour moi et que j'aurais pas été en accord avec une décision d'interrompre la grossesse. Donc déjà, ça m'a offert une première relecture.
Et puis, il y avait aussi cette autre question. Pourquoi ces deux grossesses alors qu'elle prenait la pilule? Il y a plus de 2 ans, Claire a été de nouveau enceinte. Une grossesse extra-utérine cette fois-ci. Mais comme pour ses deux précédentes grossesses, Claire était sous contraceptif. Un mot commence à être posé, celui d'hyperfertilité. L'hyperfertilité, c'est le fait d'être enceinte facilement, même quand on a une contraception. Et ce mot, il lui fait du bien à Claire. Car il y a 12 ans, lors de la première grossesse, nombreuses ont été les personnes à penser que cette adolescente enceinte était un peu fautive, un peu responsable de la situation. Mais Claire, elle l'avait toujours su qu'elle n'avait pas oublié sa pilule.
Alors que j'avais un stérilet cuivre que j'avais posé donc à la suite de la grossesse d'Iris, j'ai fait une grossesse extra-utérine. Mais à la base, là encore, j'ai absolument pas compris que j'étais enceinte. Et c'est en refaisant des examens, parce que j'avais des saignements très importants, qu'on a découvert ça. Et là, ça a été le choc. Je me suis dit, comment c'est possible, quoi? Encore, il m'arrive encore un truc inexpliqué. J'ai retourné voir ma gynécologue après ça et elle m'a dit, mais non, en fait, il y a effectivement peut-être une hyperfertilité. Et en fait, c'était une sage-femme qui m'avait parlé de ça après ma grossesse extra-utérine en me disant, mais bon, de toute façon, c'est pas un diagnostic officiel, c'est toujours que des suppositions, c'est très très compliqué de mettre ce mot, parce qu'aussi la fertilité, c'est la fertilité du couple, il y a tellement de facteurs, on ne peut pas forcément poser ce diagnostic à proprement dit. voilà, j'ai remis ce mot-là en rendez-vous avec ma gynécologue. Et après des échographies aussi ou autre, elle m'a dit que effectivement, on ne comprend pas tout à ces choses-là, mais dans mon cas, au bout d'un moment, c'est quand même un mot qu'on peut poser. Alors, officiel, non officiel, on ne sait pas trop. Dans des cas comme ça, c'est quand même pas normal de tomber enceinte plusieurs fois sous pilule, plus sous stérilet. C'est pas une pilule qu'on a oubliée. Donc là, on met les soignants aussi face à une réalité. Là, j'ai pas pu le faire exprès. En fait, c'est un peu paradoxal parce qu'au fond de moi, j'ai toujours su fin, que j'en avais pas fait exprès. Mais encore une fois, ça m'a apporté une certaine reconnaissance. Là où j'ai pu être parfois forcément jugée, hein, j'imagine bien, on vient poser un mot et une explication scientifique, donc ça a toujours un côté rassurant. Et c'est plus facile aussi de jeter la responsabilité sur l'autre. Et en fait, bah, bien sûr, dans mon parcours, il y a eu des choix, mais il y a aussi des choses qui se sont imposées à moi. Donc, je ne suis pas responsable de tout. Après, voilà, mon parcours, il est atypique. Mais je ne suis pas juste une adolescente voilà, inconsciente qui a fait n'importe quoi, en fait. Ça vient renforcer, en fait, ce sentiment. Après, voilà, c'est toujours quelque chose aussi qui est compliqué à dire. Enfin, je suis hyper fertile. Après, il y a aussi cette culpabilité. Moi, c'est la première chose que j'ai dit à ma gynécologue. J'ai dit oui, enfin bon, vaut mieux ça que de ne pas pouvoir avoir d'enfant, finalement. Et elle m'a répondu, oh là là. Puis après, c'est pas simple non plus de ne pas pouvoir se fier à sa contraception. Donc après, chacun son lot aussi de problèmes, on va dire, et il faut, voilà, il faut composer avec tout ça, mais en tout cas, ça m'a réellement apporté aussi, ça aussi, de l'apaisement sur ce que j'avais pu vivre.
Le décès de Valentin a eu lieu le 1er mai 2011. Aujourd'hui, nous sommes plus de 12 ans après. Alors j'ai eu envie de poser une question à Claire pour terminer notre entretien. Claire, quel regard portes-tu sur tout ce chemin que tu as parcouru ?
Je suis vraiment très différente de la jeune femme que je pouvais être. Je suis consciente que j'ai pas un parcours typique pour quelqu'un de mon âge, mais c'est ce que je suis et franchement cette expérience du deuil périnatal, ça m'a appris tellement de choses et ça m'a permis de travailler sur moi. Je suis pas sûre que certaines personnes qui ont 10 ou 20 ans ou 30 ans de plus que moi aient fait forcément tout ce travail sur soi-même. Donc, je me connais bien aujourd'hui. Je sais ce que je veux et je sais la valeur des choses et des relations, les gens qui m'entourent. Et ça, c'est vraiment un cadeau. Bien sûr, la vie, elle est injuste, elle est cruelle et... Et ça, c'est aussi quelque chose dont j'ai conscience. Et forcément, il y a des moments où je suis dans cette ambivalence. Hein. Je jongle avec ce paradoxe de savoir que la vie est terrible et à la fois qu'elle a son lot de miracles, comme j'ai pu le vivre, et de belles choses. Donc, c'est un paradoxe permanent, mais un équilibre qui je pense, est trouvé aujourd'hui. Et je pense que quand on survit à un deuil périnatal, tout paraît plus simple après. On survit à tout, en fait. C'est une des pires épreuves de la vie. Il n'y a pas grand-chose de pire que de perdre un enfant, finalement. Pour moi, c'est ça. Ça englobe vraiment cette notion, alors oui, de perdre un bébé. Mais le deuil aussi, ben, voilà, c'est une épreuve, c'est un processus. Et c'est quelque chose qui ne se termine jamais. C'est apprendre à vivre avec cette ambivalence hein, dont on parlait. Ça prend une forme différente au fil du temps, mais ça ne disparaît jamais, c'est un processus de toute une vie, en fait. Moi, je sais qu'à chaque fois, le mois d'avril, on se dirige tout doucement vers le 1er mai. Et voilà, il y a des émotions qui reviennent, même 11 ans après. Et puis voilà, ça s'estompe un petit peu. C'est pas linéaire, c'est sûr. C'est difficile à percevoir forcément au moment où ça nous arrive, mais c'est le début d'autre chose. Et ça marque vraiment un tournant, parce qu'on ne sera plus jamais en fait la personne qu'on était avant. Moi, très clairement, j'ai une partie de moi qui s'est éteinte à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que l'autre partie n'est pas aussi plus lumineuse que ce qu'elle était avant.
Et c'est sur cette lumière que se termine ce 40e épisode d'Au Revoir Podcast. Un grand merci à toi, Claire, pour ta confiance. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir d'écrire et de réaliser cet épisode. Alors si vous voulez soutenir mon travail et donner à Au Revoir Podcast plus de visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.